Iliade, chant 16e. Et il combattait ainsi pour les nefs bien construites. Et Patroclos se tenait devant le prince des peuples, Achilleus, versant de chaudes larmes, comme une source d'eau noire qui flue du haut d'un rocher. Et le divin Achilleus en eut compassion, et il lui dit ces paroles ailées. Pourquoi pleures-tu, Patroclos, comme une petite fille qui court après sa mère, saisit sa robe, et la regarde en pleurant jusqu'à ce que celle-ci la prenne dans ses bras. Semblable à cet enfant, ô Patroclos, tu verses des larmes abondantes. Quel message as-tu pour les Myrmidones ou pour moi? As-tu seul reçu quelques nouvelles de l'Aphtiée? On dit cependant que le fils d'Actor, Ménoïtios, et l'Aïakide Péléus vivent encore parmi les Myrmidones. Certes, nous serions accablés s'ils étaient morts. Mais peut-être pleures-tu pour les Argiens qui périssent auprès des nefs creuses par leur propre iniquité. Parle, ne me cache rien, afin que nous sachions tous deux. Et le cavalier Patroclos, avec un profond soupir, lui répondit : Ô Achilleus, fils de Péléus, le plus brave des Achéens, ne t'irrite point, car de grandes calamités accablent les Achéens. Déjà les plus braves d'entre eux gisent dans les nefs, frappés et blessés. Le robuste Tydéide Diomédès est blessé, et Odysseus s'illustre par sa lance, et Agamemnon. Eurypylos a la cuisse percée d'une flèche, et les médecins les soignent, et baignent leurs blessures avec des baumes. Mais toi, Achilleus, tu es implacable. Ô Péléiade, doué d'un courage inutile, qu'une colère telle que la tienne ne me saisisse jamais. À qui viendras-tu désormais en aide si tu ne sauves pas les Argiens de cette ruine terrible? Ô inexorable, le cavalier Péléus n'est point ton père, Thétis ne t'a point conçu, la mer bleue t'a enfanté, et ton âme est dure comme les hauts rochers. Si tu fuis l'accomplissement d'un oracle, et si ta mère vénérable t'a averti de la part de Zeus, au moins envoie-moi promptement à la tête des Myrmidones, et que j'apporte une lueur de salut aux Danaïens. Laisse-moi couvrir mes épaules de tes armes. Les Troyens reculeront, me prenant pour toi, et les fils belliqueux des Achéens respireront, et nous chasserons facilement, nouveaux combattants, ces hommes écrasés de fatigue, loin des tentes et des nefs, vers leur ville. Et il parla ainsi, suppliant l'insensé, cherchant la mort et la guerre fatale. Et Achilleus, au pied rapide, lui répondit en gémissant. « Divin Patroclos, qu'as-tu dit? Je ne m'inquiète d'aucun oracle, et ma mère vénérable ne m'a rien annoncé de la part de Zeus. Mais un noir chagrin est dans mon cœur et trouble mon esprit, depuis que cet homme, dont la puissance est haute, m'a arraché ma récompense, à moi qui suis son égal. Tel est le noir chagrin qui me ronge. Cette jeune femme que j'avais conquise par ma lance, après avoir renversé une ville aux fortes murailles, et que les fils des Achéens m'avaient donné en récompense, le roi Atréide Agamemnon me l'a arraché des mains, comme un vil vagabond. Mais oublions le passé. Sans doute, je ne puis nourrir dans mon cœur une colère éternelle. J'avais résolu de ne la déposer que le jour où les clameurs de la guerre parviendraient jusqu'à mes nefs. Couvre donc tes épaules de mes armes illustres, et mène les braves Myrmidones au combat, puisqu'une noire nuée de Troyens enveloppe les nefs. Voici que les Argiens sont acculés contre le rivage de la mer, dans un espace très étroit, et toute la ville des Troyens s'est ruée sur eux avec audace, car ils ne voient point le front de mon casque resplendir. Certes, dans leur fuite, ils empliraient les fossés des champs de leurs cadavres, si le roi Agamemnon ne m'avait point outragé. Et maintenant, ils assiègent le camp. La lance furieuse du Tydéide Diomédès ne s'agite plus dans ses mains pour sauver les Danaïens de la mort. Et je n'entends plus la voix de l'Atréide sortir de sa tête détestée, mais celle du tueur d'hommes Hector, qui excite les Troyens de toutes parts. Et la clameur de ceux-ci remplit toute la plaine, et ils bouleversent les Achéens. Va, Patroclos, rue-toi sur eux, et repousse cette ruine loin des nefs. Ne les laisse pas détruire les nefs par le feu ardent, et que le doux retour ne nous soit point ravi. Mais garde mes paroles dans ton esprit, si tu veux que je sois honoré et glorifié par tous les Danaïens, et qu'il me rende cette belle jeune femme et un grand nombre de présents splendides par surcroît. Repousse les Troyens loin des nefs et reviens. Si l'époux de Héré qui tonne au loin te donne la victoire, ne dompte pas sans moi les Troyens belliqueux, car tu me couvrirais de honte si, les ayant vaincus et plein de l'orgueil et de l'ivresse du combat, tu menais l'armée à Ilios. Crains qu'un des dieux éternels ne se rue sur toi du haut de l'Olympos, surtout l'archer Apollon qui protège les Troyens. Reviens après avoir sauvé les nefs et laisse-les combattre dans la plaine. Qu'il vous plaise, ô père Zeus, ô Athénée, ô Apollon, que nul d'entre les Troyens et les Achéens n'évite la mort, et que seuls nous survivions tous deux et renversions les murailles sacrées d'Ilios. Et ils se parlaient ainsi. Mais Aias ne suffisait plus au combat, tant il était accablé de traits, et l'esprit de Zeus et les Troyens illustres l'emportaient sur lui, et son casque splendide, dont les aigrettes étaient rompues par les coups, sonnait autour de ses tempes, et son épaule fatiguée ne pouvait plus soutenir le poids du bouclier. Et cependant, malgré la nuée des traits, il ne pouvait l'ébranler, bien que respirant à peine, inondé de la sueur de tous ses membres, et haletant sous des mots multipliés. Et Hector frappa de sa grande épée la lance de frêne d'Aias, et il la coupa là où la pointe se joignait au bois. Et le Télamonien Aias n'agita plus dans sa main qu'une lance mutilée, car la pointe d'airain, en tombant, sonna contre terre. Et Aias, dans son cœur irréprochable, reconnut avec horreur l'œuvre des dieux, et vit que Zeus, qui tonne dans les hauteurs, domptant son courage, donner la victoire aux Troyens. Et il se retira loin des traits, et les Troyens jetèrent le feu infatigable sur la nef rapide, et la flamme inextinguible enveloppa aussitôt la poupe. Et Achilleus, frappant ses cuisses, dit à Patroclos : À toi, divin Patroclos, je vois le feu ardent sur les nefs. Si elles brûlent, nous ne pourrons plus songer au retour. Revais promptement mes armes, et j'assemblerai mon peuple. Il parla ainsi. Et Patroclos se couvrit de l'airain splendide. Il attacha de belles cnémides à ses jambes avec des agrafes d'argent. Il mit sur sa poitrine la cuirasse étincelante, aux mille reflets du rapide Achilleus. Et il suspendit à ses épaules l'épée d'airain aux clous d'argent. Puis il prit le grand et solide bouclier. Et il posa sur sa noble tête le casque magnifique à la terrible aigrette de crin. Et de ses mains, il saisit de fortes piques. Mais il laissa la lance lourde, immense et solide, de l'irréprochable Aïakide. La lance Péliade, que Chéron avait apportée à son père bien-aimé des cimes du Pélios, afin d'être la mort des héros. Et Patroclos ordonna à Automédon, qu'il honorait le plus après Achilleus, et qui lui était le plus fidèle dans le combat, d'atteler les chevaux au char. Et c'est pourquoi Automédon sommit aux joues les chevaux rapides, Xanthos et Balios, qui tous deux volaient comme le vent, et que la harpie podargée avait conçue de Zéphyros lorsqu'elle paissait dans une prairie au bord du fleuve Okéanos. Et Automédon lia au-delà du timon l'irréprochable Pédasos, qu'Achilleus avait amené de la ville saccagée de Éétion. Et Pédasos, bien que mortel, suivait les chevaux immortels. Et Achilleus armait les Myrmidones sous leurs tentes. De même que des loups mangeurs de chair crue et plein d'une grande force, qui dévorant un grand cerf rameux qu'ils ont tué sur les montagnes, vont en troupe, la gueule rouge de sang et vomissant le sang, lapés de leur langue légère les eaux de la source noire, tandis que leur ventre s'enfle et que leur cœur est toujours intrépide. De même, les chefs des Myrmidones se pressaient autour du brave compagnon du rapide Aïakide. Et au milieu d'eux, le belliqueux Achilleus excitait les porteurs de boucliers et les chevaux. Et Achilleus, cher à Zeus, avait conduit à Troie 50 nefs rapides, et 50 guerriers étaient assis sur les bancs de rameurs de chacune, et 5 chefs les commandaient sous ses ordres. Et le premier chef était Ménestios à la cuirasse étincelante, aux 1000 reflets, fils du fleuve Sperchios qui tombait de Zeus. Et la belle Polydorée, fille de Péléus, femme mortelle, épouse d'un dieu, l'avait conçue de l'infatigable Sperchios. Mais Boros, fils de Périréus, l'ayant épousée en la dotant richement, passait pour être le père de Ménestios. et le deuxième chef était le brave Doros, conçu en secret, et qu'avait enfanté la belle Polymélée, habile dans les danses, fille de Phylas. Et le tueur d'Argos l'aima, l'ayant vu dans un cœur de la tumultueuse Artémis à l'arc d'or. Et l'illustre Herméias, montant aussitôt dans les combles de la demeure, coucha secrètement avec elle, et elle lui donna un fils illustre, l'agile et brave Doros. Et après qu'Eileithéia, qui préside au douloureux enfantement, l'eut conduite à la lumière, et qu'il eut vu la splendeur de Hélios, le robuste Actoride et Cléclééus conduisit Polymélée dans ses demeures, et lui fit 1000 dons nuptiaux. Et le vieux Phylas s'éleva et nourrit avec soin Eudoros, comme s'il était son fils. Et le troisième chef était le brave Peisandros Maïmalide, qui excellait au combat de la lance parmi les Myrmidones, après Patroclos. Et le quatrième chef était le vieux cavalier Phénix, et le cinquième était l'irréprochable Achimédon, fils de Laërcéus. Et Achilléus, les ayant tous rangés sous leur chef, leur dit en paroles sévères : Myrmidone, qu'aucun de vous n'oublie les menaces que dans les nefs rapides vous adressiez aux Troyens, durant les jours de ma colère, quand vous m'accusiez moi-même, disant : Ô dur fils de Péléus, sans doute une mère farouche t'a nourri de fiel, toi qui retiens de force tes compagnons sur leurs nefs. Que nous retournions au moins dans nos demeures sur les nefs qui fendent la mer, puisqu'une colère inexorable est entrée dans ton cœur. Souvent vous me parliez ainsi. Aujourd'hui, voici le grand combat dont vous étiez avide. Que chacun de vous, avec un cœur solide, lutte donc contre les Troyens. Il parla ainsi, et il excita la force et le courage de chacun, et ils serrèrent leurs rangs. De même qu'un homme fortifie de pierres épaisses le mur d'une haute maison qui soutiendra l'effort des vents. De même les casques et les boucliers bombés se pressèrent, tous se soutenant les uns les autres, bouclier contre bouclier, casques à crinières étincelantes contre casques, homme contre homme. Et Patroclos et Automédon, qui n'avaient qu'une âme, se mirent en tête des Myrmidones. Mais Achilléus entra sous sa tente, et souleva le couvercle d'un coffre riche et bien fait, et plein de tuniques, de manteaux impénétrables au vent et de tapis velus. Et là se trouvait une coupe d'un beau travail, dans laquelle le vin ardent n'avait été versé que pour Achilléus, seul entre tous les hommes, et qui n'avait fait de libation qu'au père Zeus, seul entre tous les dieux. Et l'ayant retiré du coffre, il la purifia avec du soufre, puis il la lava avec de l'eau pure et claire, et il lava ses mains aussi, et puisant le vin ardent, faisant des libations et regardant l'Ouranos, il pria debout au milieu de tous. Et Zeus, qui se réjouit de la foudre, l'entendit et le vit. Zeus, roi dodonaïen, pélagique, qui habitant au loin, commande sur Dodonée enveloppée par l'hiver, au milieu de tes divinateurs, les sels, qui ne se lavent point les pieds et dorment sur la terre. Si tu as déjà exaucé ma prière, et si pour m'honorer tu as rudement châtié le peuple des Achéens, accomplisse encore mon vœu. Je reste dans l'enceinte de Ménef, mais j'envoie mon compagnon combattre en tête de nombreux Myrmidones. Ô prévoyant Zeus, donne-lui la victoire, affermis son cœur dans sa poitrine, et qu'Hector apprenne que mon compagnon sait combattre seul, et que ses mains robustes n'attendent point pour agir, que je me rue dans le carnage d'Arès. Mais ayant repoussé la guerre et ses clameurs, loin des nefs, qu'ils reviennent, sains et saufs, vers mes nefs rapides, avec mes armes et mes braves compagnons. Il parla ainsi en priant, et le sage Zeus l'entendit, et il exauça une partie de sa prière, et il rejeta l'autre. Il voulut bien que Patroclos repoussât la guerre et le combat loin des nefs, mais il ne voulut pas qu'il revînt sain et sauf du combat. Après avoir fait des libations et supplié le père Zeus, le Péléide rentra sous sa tente et déposa la coupe dans le coffre, et il sortit de nouveau pour regarder la rude mêlée des Troyens et des Achéens. Et les Myrmidones, rangés sous le magnanime Patroclos, se ruèrent pleins d'ardeur contre les Troyens, et ils se répandaient semblables à des guêpes nichées sur le bord du chemin, et que des enfants se plaisent à irriter dans leur nid. et ces insensés préparent un grand mal pour beaucoup. Car si un voyageur les excite involontairement au passage, les guêpes au cœur intrépide tourbillonnent et défendent leurs petits. Ainsi les braves myrmidones se répandaient hors des nefs, et une immense clameur s'éleva. Et Patroclos exhorta ainsi ses compagnons à voix haute. « Myrmidones, compagnons du Péléide Achilleus, amis, soyez des hommes. Et souvenez-vous de votre force et de votre courage, afin d'honorer le Péléide, le plus brave des hommes, auprès des nefs des Argiens, et nous, ses belliqueux compagnons. Et que l'Atréide Agamemnon, qui commande au loin, reconnaisse sa faute, lui qui a outragé le plus brave des Achéens. » Il parla ainsi, et il excita leur force et leur courage, et ils se ruèrent avec fureur sur les Troyens, et les nefs résonnèrent des hautes clameurs des Achéens. Et alors, les Troyens virent le brave fils de Ménoïtios et son compagnon, tous deux resplendissants sous leurs armes. Leurs cœurs en furent émus, et leurs phalanges se troublèrent, et ils crurent que le Péléide aux pieds rapides avait déposé sa colère auprès des nefs, et chacun regardait de tous côtés comment il éviterait la mort. Et Patroclos, le premier, lança sa pique éclatante au plus épais de la mêlée tumultueuse, autour de la poupe de la nef du magnanime Protésilaos. Et il frappa Pyraïkmès, qui avait amené les cavaliers païens d'Amidonée, et des bords de l'Axios au large cours. Et il le frappa à l'épaule droite, et Pyraïkmès tomba dans la poussière en gémissant, et les païens prirent la fuite. Patroclos les dispersa tous ainsi, ayant tué leur chef qui excellait dans le combat. Et il arracha le feu de la nef, et il l'éteignit. Et les Troyens, dans un immense tumulte, s'enfuirent loin de la nef à demi brûlée. Et les Danaïens, sortant en foule des nefs creuses, se jetèrent sur eux, et une haute clameur s'éleva. De même que le foudroyant Zeus, ayant dissipé les nuées noires au faîte d'une grande montagne, tout apparaît soudainement, les cavernes, les cimes aiguës et les bois, et qu'une immense sérénité se répand dans les terres. De même les Danaïens respirèrent, après avoir éloigné des nefs la flamme ennemie. Mais ce ne fut point la fin du combat. Les Troyens, repoussés des nefs noires par les Achéens belliqueux, ne fuyaient point bouleversés, mais ils résistaient encore, bien que cédant à la nécessité. Alors, dans la mêlée élargie, chaque chef achéen tua un guerrier. Et le premier de tous, le brave fils de Ménoïtios, perça de sa pique aiguë la cuisse d'Aréilikos qui fuyait. L'airain traversa la cuisse et brisa l'os, et l'homme tomba la face contre terre. Et le brave Ménélaos frappa Thoas à l'endroit de la poitrine que le bouclier ne couvrait pas, et il rompit ses forces. Et le Phyléide, voyant Amphiclos qui s'élançait, le prévint en le frappant au bas de la cuisse, là où les muscles sont très épais, et la pointe d'airain déchira les nerfs, et l'obscurité couvrit les yeux d'Amphiclos. Et la lance aiguë du Nestoride blessa Atymnios, et l'airain traversa les entrailles, et le Troyen tomba devant Antilochos. Et Maris, irritée de la mort de son frère, et debout devant le cadavre, lança sa pique contre Antilochos. Mais le divin Thrasymédès le prévint, comme il allait frapper, et le perça près de l'épaule, et la pointe d'airain, tranchant tous les muscles, dépouilla l'os de toute sa chair. Et Maris tomba avec bruit, et un noir brouillard couvrit ses yeux. Ainsi descendirent dans les Rébos deux frères, braves compagnons de Sarpédon, et tous deux fils d'Amisodaros, qui avaient nourri l'indomptable Chiméra pour la destruction des hommes. Aias Oiliade saisit vivant Cléoboulos, embarrassé dans la mêlée, et il le tua en le frappant de son épée à la gorge, et toute l'épée entra, chaude de sang, et la mort pourprée et la moire violente obscurcirent ses yeux. Pénéléos et Lycon, s'attaquant, se manquèrent de leurs lances et combattirent avec leurs épées. Lycon frappa le cône du casque à aigrette de crin, et l'épée se rompit. Mais Pénéléos le perça au cou, sous l'oreille, et l'épée y entra tout entière, et la tête fut suspendue à la peau, et Lycon fut tué. Et Mériones, poursuivant avec rapidité Acamas qui montait sur son char, le frappa à l'épaule droite, et le Troyen tomba du char, et une nuée obscurcit ses yeux. Idoménéus frappa de sa pique et Rimas dans la bouche, et la pique des reins pénétra jusque dans la cervelle, en brisant les os blancs. Et toutes les dents furent ébranlées, et les deux yeux s'emplirent de sang, et le sang jaillit de la bouche et des narines, et la nuée noire de la mort l'enveloppa. Ainsi les chefs d'Anaïn tuèrent chacun un guerrier. De même que des loups féroces se jettent dans les montagnes sur des agneaux ou des chevreaux que les bergers imprudents ont laissés dispersés çà et là et qui les emportent tout tremblants, de même les Danaïns bouleversaient les Troyens qui fuyaient tumultueusement, oubliant leur force et leur courage. Et le grand Aias désirait surtout atteindre Hector armé d'airain. Mais celui-ci, habile au combat, couvrant ses larges épaules de son bouclier de peau de taureau, observait le bruit strident des flèches et le son des piques. Et il comprenait les chances du combat, et toujours ferme, il protégeait ses chers compagnons. De même qu'une nuée monte de l'Olympos jusque dans l'Ouranos, quand Zeus excite la tempête dans la sérénité de l'éther, de même la clameur et la fuite s'élançaient des nefs. Et les Troyens ne repassèrent point le fossé aisément. Les chevaux rapides d'Hector l'emportèrent loin de son peuple, que le fossé profond arrêtait. Et une multitude de chevaux s'y précipitait, brisant les timons et abandonnant les chars des princes. Et Patroclos les poursuivait avec fureur, exhortant les Danaïns et méditant la ruine des Troyens. Et ceux-ci, pleins de clameurs, emplissaient les chemins de leur fuite, et une vaste poussière montait vers les nuées. Et les chevaux aux sabots massifs couraient vers la ville, loin des nefs et des tentes. Et Patroclos poussait avec des cris menaçants cette armée bouleversée. Et les hommes tombaient hors des chars sous les essieux, et les chars bondissants retentissaient. Et les chevaux immortels et rapides, illustres présents des dieux appelés Us, franchirent le fossé profond, plein du désir de la course. Et le cœur de Patroclos le poussait vers Hector, afin de le frapper de sa pique. Mais le cheval rapide du Priamide l'avait emporté. Dans les jours de l'automne, quand la terre est accablée sous de noirs tourbillons, et quand Zeus répand une pluie abondante, irrité contre les hommes qui jugeaient avec iniquité dans l'agora et chassaient la justice sans respect des dieux, de même qu'il voit maintenant les torrents creuser leur campagne et se précipiter dans la mer pourprée du haut des rochers escarpés, détruisant de tous côtés les travaux des hommes. De même, on voyait les cavales troyennes courir épouvantées. Et Patroclos, ayant rompu les premières phalanges, les repoussa vers les nefs et ne leur permit pas de regagner la ville qu'elles désiraient atteindre. Et il les massacrait en les poursuivant entre les nefs, le fleuve et les hautes murailles, et il tirait vengeance d'un grand nombre d'hommes. Et il frappa d'abord Pronoos de sa pique éclatante dans la poitrine découverte par le bouclier. Et les forces du Troyen furent rompues, et il retentit en tombant. Et il attaqua Testor, fils d'Enops, et Testor était affaissé sur le siège du char, l'esprit troublé, et les rênes lui étaient tombées des mains. Et Patroclos le frappa de sa lance à la joue droite, et l'airain passa à travers les dents, et comme il le ramenait, il arracha l'homme du char. Ainsi un homme, assis au faîte d'un haut rocher qui avance, à l'aide de l'hameçon brillant et de la ligne, attire un grand poisson hors de la mer. Ainsi, Patroclos enleva du char, à l'aide de sa lance éclatante, Testor, la bouche béante. Et celui-ci, en tombant, rendit l'âme. Puis il frappa d'une pierre dans la tête Euryalos, qui s'élançait, et dont la tête s'ouvrit en deux sous le casque solide, et qui tomba, et rendit l'âme enveloppée par la mort. Puis Patroclos coucha, dompté, sur la terre nourricière, Érymas, Amphotéros, Épaltès, Tlépolémos d'Amastoride, Échios, Pyrès, Iphéus et Vipos, et l'Argéade Polymélos. Mais Sarpédon, voyant ses compagnons tués et dépouillés de leurs armes par les mains du Ménoïtiade Patroclos, exhorta les irréprochables Lykiens. « Ô honte, pourquoi fuyez-vous, Lykiens ? Vous êtes maintenant bien rapide. J'irai contre ce guerrier, et je saurai s'il me domptera, lui qui a accablé les Troyens de tant de maux, et qui a rompu les genoux de tant de braves. » Il parla ainsi, et il sauta avec ses armes de son char sur la terre. Et Patroclos le vit, et sauta de son char. De même que deux vautours au bec recourbé et aux serres aiguës, sur une roche escarpée, luttent avec de grands cris. De même, ils se ruèrent l'un sur l'autre avec des clameurs. Et le fils du subtil Cronos, les ayant vus, fut rempli de compassion. Et il dit à Erée, sa sœur et son épouse, « Hélas, voici que la destinée de Sarpédon, qui m'est très chère parmi les hommes, est d'être tuée par le Ménoïtiade Patroclos. Et mon cœur hésitant délibère dans ma poitrine si je le transporterai vivant du combat lamentable au milieu du riche peuple de Lykié, ou si je le dompterai par les mains du Ménoïtiade. » Et la vénérable Erée aux yeux de bœuf lui répondit, « Redoutable Cronide, quelle parole as-tu dite ? Tu veux affranchir de la triste mort un homme mortel depuis longtemps voué au destin. Fais-le, mais nous tous les dieux, nous ne t'approuverons pas. Je te dirai ceci, et retiens-le dans ton esprit. Si tu envoies Sarpédon vivant dans ses demeures, songe que désormais, chacun des dieux voudra aussi sauver un fils bien-aimé de la rude mêlée. Il y a en effet beaucoup de fils des dieux qui combattent autour de la grande ville de Priamos, de ces dieux que tu auras irrités. Si Sarpédon t'est cher et que ton cœur le plaigne, laisse-le tomber dans la rude mêlée sous les mains du Ménoïtiade Patroclos. Mais dès qu'il aura rendu l'âme et la vie, envoie Thanatos et le doux Hypnos afin qu'il le transporte chez le peuple de la grande Lykié. Ses parents et ses concitoyens l'ensevelliront, et ils lui élèveront un tombeau et une colonne, car c'est là l'honneur des morts. » Elle parla ainsi, et le père des hommes et des dieux consentit, et il versa sur la terre une pluie de sang, afin d'honorer son fils bien-aimé, que Patroclos devait tuer dans la fertile Troie, loin de sa patrie. Et les deux héros s'étaient rencontrés. Patroclos frappa dans le ventre l'illustre Thrasymédès, qui conduisait le char du roi Sarpédon, et il le tua. Et Sarpédon s'élança, mais sa pique éclatante s'étant égarée, blessa à l'épaule le cheval Pédasos, qui hennit, tomba dans la poussière et rendit l'âme. Et ses compagnons se cabrèrent, et le joug cria, et les rênes furent entremêlées. Mais le brave Automédo mit fin à ce trouble. Il se leva, et tirant la longue épée qui pendait de sa cuisse robuste, il trancha les traits qui étaient au-delà du timon. Et les deux autres chevaux, se remettant au joug, obéirent aux rênes, et les deux guerriers continuèrent le combat lamentable. Alors, la pique éclatante de Sarpédon s'égara encore, car la pointe d'airain effleura l'épaule gauche de Patroclos, sans le blesser. Et celui-ci se rua avec l'airain, et le trait ne s'échappa point vainement de sa main, car il frappa Sarpédon à cette cloison qui enferme le cœur vivant. Et il tomba, comme tombe un chêne, ou un peuplier, ou un grand pin que les bûcherons sur les montagnes coupent de leur hache tranchante pour construire des nefs. Et il était étendu devant ses chevaux et son char, grinçant des dents et saisissant la poussière sanglante. De même qu'un taureau magnanime, qu'un lion fauve a saisi parmi les bœufs aux pieds flexibles et qui meurt en mugissant sous les dents du lion. De même le roi des Lykiens porteur de boucliers gémissait, dompté par Patroclos. Et il appela son cher compagnon. « Ami Glaucos, brave entre les hommes, c'est maintenant qu'il te faut combattre intrépidement. Si la mêlée lamentable ne trouble point ton cœur, sois prompt. Les appelant de tous côtés, exhorte les chefs lykiens à combattre pour Sarpédon. Et combat toi-même pour moi. Je serai à jamais ton opprobre et ta honte si les Achéens me dépouillaient de mes armes dans le combat des nefs. Sois ferme. Et exhorte tout mon peuple. » Il parla ainsi, et l'ombre de la mort couvrit ses yeux et ses narines. Et Patroclos, lui mettant le pied sur la poitrine, arracha sa lance, et les entrailles la suivirent. Et le Ménoïtiade arracha en même temps sa lance et l'âme de Sarpédon. Les Myrmidones saisirent les chevaux haletants, et qui voulaient fuir depuis que le char de leur maître était vide. Mais en entendant la voix de Sarpédon, Glaucos ressentit une amère douleur, et son cœur fut déchiré de ne pouvoir le secourir. Pressant de sa main son bras cruellement blessé par la flèche que lui avait lancée Teucros du haut de la muraille en défendant ses compagnons, il supplia ainsi l'archer Apollon. « Entends-moi, ô roi, soit de la riche Lykié, soit de Troie, car tu peux entendre de tout lieu les plaintes de l'homme qui gémit. et voici que la douleur me ronge. Je subis une blessure cruelle, et ma main est en proie à de grands maux, et mon sang coule sans cesse, et mon épaule est très lourde, et je ne puis ni saisir ma lance, ni combattre l'ennemi. Et voici que le plus illustre des hommes est mort, Sarpédon, fils de Zeus qui n'a point secouru son fils. Mais toi, ô roi, guéris cette blessure amère, apaise mon mal, afin que j'excite les Lykiens à combattre, et que je combatte moi-même pour ce cadavre. » Il parla ainsi en priant, et Phoïbos Apollon l'entendit, et apaisa aussitôt sa douleur. Et le sang noir cessa de couler de sa blessure amère, et la force lui fut rendue. Glaucos connut dans son esprit que le grand Dieu avait exaucé sa prière, et il se réjouit. Et d'abord, courant de tous côtés, il excita les chefs lykiens à combattre pour Sarpédon. Puis, marchant à grands pas vers les Troyens, il chercha Polydamas Pantoïde, le divin Agénor, Énéas et Hector armés d'airain, et il leur dit ces paroles ailées. « Hector, tu oublies tes alliés qui, pour toi, rendent l'âme loin de leurs amis et de la terre de la patrie, et tu refuses de les secourir. Le chef des Lykiens porteur de boucliers est mort, Sarpédon, qui protégeait la Lykie par sa justice et par sa vertu. Arès d'airain l'a tué par la lance de Patroclos. Venez, amis, et indignez-vous. Que les Myrmidones, irrités à cause de tant d'Achéens que nous avons tués de nos lances rapides auprès des nefs, n'enlèvent point les armes et n'insultent point le cadavre de Sarpédon. » Il parla ainsi, et une intolérable et irrésistible douleur saisit les Troyens, car Sarpédon, bien qu'étranger, était le rempart de leur ville, et des peuples nombreux le suivaient, et lui-même excellait dans le combat. Et ils marchèrent avec ardeur droit aux Danaïens, menés par Hector, irrité à cause de Sarpédon. Mais le cœur solide de Patroclos Ménoïtiade excitait aussi les Achéens, et il dit aux deux Aias, prompts au combat, « Aias, soyez aujourd'hui tel que vous avez toujours été, parmi les plus braves et les meilleurs. » Il est tombé l'homme, qui le premier a franchi le mur des Achéens, Sarpédon. Insultons ce cadavre, et arrachons ses armes de ses épaules, et tuons de l'airain tous ceux de ses compagnons qui voudraient le défendre. » Il parla ainsi, et les Aias se hâtèrent de lui venir en aide. Et de chaque côté, Troyens, Lykiens, Myrmidones et Achéens, serrant leurs phalanges, se ruaient avec d'horribles clameurs autour du cadavre, et les armes des hommes retentissaient. Et Zeus répandit sur la mêlée une obscurité affreuse, afin que le labeur du combat pour son fils bien-aimé fût plus terrible. Et d'abord les Troyens repoussèrent les Achéens aux sourcils arqués, et un des meilleurs parmi les Myrmidones fut tué, le divin Épeigeus, fils du magnanime Agacléus. Et Épeigeus commandait autrefois dans Boudéion bien peuplé. Mais ayant tué son brave beau-frère, il vint en suppliant auprès de Péléus et de Tétis aux pieds d'argent, qu'ils envoyèrent avec le mâle Achilléus vers Ilios aux beaux chevaux combattre les Troyens. Et comme il mettait la main sur le cadavre, l'illustre Hector le frappa d'une pierre à la tête, et la tête se fendit en deux sous le casque solide, et il tomba la face sur le cadavre. Puis l'affreuse mort l'enveloppa lui-même, et Patroclos fut saisi de douleur à cause de son compagnon tué. Et il se rua à travers les combattants, semblable à un épervier rapide qui terrifie les geais et les étourneaux. Ainsi, le cavalier Patroclos se rua contre les Lykiens et les Troyens, irrité dans son cœur à cause de son compagnon. Et il frappa d'une pierre au cou Sthénélaos Itaïménide, et les nerfs furent rompus. Et les premiers rangs et l'illustre Hector reculèrent d'autant d'espace qu'en parcourt une pique bien lancée, dans le combat contre des hommes intrépides ou dans les jeux. Autant reculèrent les Troyens et s'avancèrent les Achéens. Et le premier, Glaucos, chef des Lykiens porteur de boucliers, se retournant, tua le magnanime Baticléus, fils bien-aimé de Calcon, qui habitait l'Hélas et qui était illustre parmi les Myrmidones par ses domaines et par ses richesses. Et Baticléus le poursuivant, Glaucos se retourna subitement et le frappa de sa lance au milieu de la poitrine. Et il tomba avec bruit, et une lourde douleur saisit les Achéens quand le guerrier tomba. et les Troyens se réjouirent. Mais les Achéens, infatigables, se souvenant de leur courage, se jetèrent en foule autour du cadavre. Alors, Mériones tua un guerrier troyen, le brave Laogon, fils d'Onétor, prêtre de Zeus Idaïen, et que le peuple honorait comme un dieu. Il le frappa sous la mâchoire et l'oreille, et l'âme abandonna aussitôt ses membres, et l'affreux brouillard l'enveloppa. Et Énéas lança sa pique d'airain contre Mériones, et il espérait l'atteindre sous le bouclier, comme il s'élançait. Mais celui-ci évita la pique d'airain en se courbant, et la longue pique s'enfonça en terre, et vibra jusqu'à ce que le robuste Arès eût épuisé sa force. Et la pique d'Énéas vibrait ainsi, parce qu'elle était partie d'une main vigoureuse. Et Énéas, irrité, lui dit « Mériones, bien que tu sois un agile sauteur, ma pique t'eût rendu immobile à jamais, si je t'avais atteint. » Et Mériones, illustre par sa lance, lui répondit « Énéas, il te sera difficile, malgré ta vigueur, de rompre les forces de tous ceux qui te combattront. Si moi aussi, je t'atteignais de l'airain aigu, bien que tu sois robuste et confiant dans tes forces, tu me donnerais la gloire, et ton âme à Hédès s'illustre par ses chevaux. » Il parla ainsi, et le robuste fils de Ménoïtios le réprimanda. « Mériones, pourquoi t'en parler, étant brave? Ô ami, ce n'est point par des paroles outrageantes que tu repousseras les Troyens loin de ce cadavre. La fin de la guerre est dans nos mains. Les paroles conviennent à l'agora. Il ne s'agit point ici de parler, mais de combattre. » Il parla ainsi, et marcha en avant, et le divin Mériones le suivit. Et de même que les bûcherons font un grand tumulte dans les gorges des montagnes, et que l'écho retentit au loin, de même la grande plaine frémissait sous les guerriers qui frappaient, de leurs épées et de leurs lances, les reins et le cuir des solides boucliers. Et nul n'aurait plus reconnu le divin Sarpédon, tant il était couvert de traits, de sang et de poussière. Et tous se ruaient sans cesse autour de son cadavre, comme les mouches qui bourdonnent, au printemps, dans les tables, autour des vases remplis de lait. C'est ainsi qu'ils se ruaient en foule autour de ce cadavre. Et Zeus, ne détournant point ses yeux splendides de la rude mêlée, délibérait dans son esprit sur la mort de Patroclos. Hésitant si l'illustre Hector le tuerait de suite avec les reins, dans la mêlée, sur le divin Sarpédon, et lui arracherait ses armes des épaules, ou si la rude mêlée serait prolongée pour la mort d'un plus grand nombre. Et il sembla meilleur à Zeus que le brave compagnon du Péléide Achilleus repoussa, vers la ville, Hector et les Troyens, et arracha l'âme de beaucoup de guerriers. Et c'est pourquoi il amollit le courage d'Hector, qui, montant sur son char, prit la fuite en ordonnant aux Troyens de fuir aussi, car il avait reconnu les balances sacrées de Zeus. Et les illustres Lykiens ne restèrent point, et ils prirent aussi la fuite en voyant leur roi couché, le cœur percé, au milieu des cadavres, car beaucoup étaient tombés pendant que le Cronion excitait le combat. Et les Achéens arrachèrent des épaules de Sarpédon ses belles armes resplendissantes. Et le robuste fils de Ménoïtios les donna à ses compagnons pour être portés aux nefs creuses. Et alors Zeus, qui amasse les nuées, dit à Apollon : « Va maintenant, cher Phoïbos, purifie Sarpédon hors de la mêlée du sang noir qui le souille. Lave-le dans les eaux du fleuve, et l'ayant oint d'ambroisie, couvre-le de vêtements immortels. Puis remets-le aux jumeaux rapides, Hypnos et Thanatos, pour qu'il le porte chez le riche peuple de la grande Lykiée. Ses parents et ses amis l'ensevelliront, et lui lèveront un tombeau et une colonne, car c'est là l'honneur des morts. » Il parla ainsi, et Apollon, se hâtant d'obéir à son père, descendit des cimes idaïennes dans la mêlée, et enleva Sarpédon loin des traits. Et il le transporta, pour le laver dans les eaux du fleuve, loignit d'ambroisie, le couvrit de vêtements immortels, et le confia aux jumeaux rapides, Hypnos et Thanatos, qui le transportèrent aussitôt chez le riche peuple de la grande Lykiée. Et Patroclos, excitant Automédon et ses chevaux, poursuivait les Lykiens et les Troyens, pour son malheur, l'insensé, car s'il avait obéi à l'ordre du Péléide, il aurait évité la guerre mauvaise de la noire mort. Mais l'esprit de Zeus est plus puissant que celui des hommes. Il terrifie le brave que lui-même a poussé au combat, et il lui enlève la victoire. Et maintenant, quel fut le premier, quel fut le dernier que tu tuas, ô Patroclos, quand les dieux préparèrent ta mort? Adrestès, Autonoos et Echéclos, Périmos Mégade et Pistor, et Mélanippos, puis Elasos, Moulios et Philartès. Il tua ceux-ci, et les autres échappèrent par la fuite. Et alors les fils des Achéens eussent pris la haute Ilios par les mains de Patroclos furieux, si Phoïbos Apollon, debout au faîte d'une tour solide, préparant la perte du Ménoïtiade, ne fût venu en aide aux Troyens. Et trois fois, Patroclos s'élança jusqu'au relief de la haute muraille. Et trois fois, Apollon le repoussa de ses mains immortelles, en heurtant son bouclier éclatant. Et quand il s'élança une quatrième fois, semblable à un dieu, l'archer Apollon lui dit ces paroles menaçantes. « Retire-toi, divin Patroclos. Il n'est pas dans ta destinée de renverser de ta lance la haute citadelle des magnanimes Troyens. Achilleus lui-même ne le pourra point, bien qu'il te soit très supérieur. » Il parla ainsi, et Patroclos recula au loin pour éviter la colère de l'archer Apollon. Et Hector, retenant ses chevaux aux sabots solides près des portes Scaïès, hésitait s'il retournerait au combat ou s'il ordonnerait aux troupes de se renfermer dans les murailles. Et Phoïbos Apollon s'approcha de lui, semblable au jeune et brave guerrier Asios, fils de Dimas, frère de Hécabée et oncle du dompteur de chevaux Hector, et qui habitait la Phrygie sur les bords du Sangarios. Et semblable à Asios, Phoïbos Apollon dit à Hector, « Hector, pourquoi t'éloignes-tu du combat? Cela ne te convient pas. Plutôt Dieu que je te fusse supérieur, autant que je te suis inférieur. Il te serait fatal d'avoir quitté le combat. Allons, pousse tes chevaux aux sabots massifs contre Patroclos. Tu le tueras peut-être, et Apollon te donnera la victoire. » Ayant ainsi parlé, le dieu rentra dans la foule des guerriers, et l'illustre Hector ordonna au brave Chébriones d'exciter ses chevaux vers la mêlée. Et Apollon, au milieu de la foule, répandit le trouble parmi les Argiens et accorda la victoire à Hector et aux Troyens. Et le Priamide, laissant tous les autres Danaïens, poussait vers le seul Patroclos ses chevaux aux sabots massifs. Et Patroclos, de son côté, sauta de son char, tenant sa pique de la main gauche. Et il saisit de la droite un morceau de marbre, rude et anguleux, d'abord caché dans sa main, et qu'il lança avec effort. Et ce ne fut pas en vain, car cette pierre aiguë frappa au front le conducteur de chevaux Chébriones, bâtard de l'illustre Priamos. Et la pierre coupa les deux sourcils, et l'os ne résista pas, et les yeux du Troyen jaillirent à ses pieds dans la poussière. Et semblable au plongeur, il tomba du char, et son âme abandonna ses membres. Et le cavalier Patroclos cria avec une raillerie amère. « Ah, certes, voici un homme agile, comme il plonge. Vraiment, il rassasirait de coquillages toute une multitude, en sautant de sa nef dans la mer, même si elle était agitée, puisqu'il plonge aussi aisément du haut d'un char. Certes, il y a d'excellents plongeurs parmi les Troyens. » Ayant ainsi parlé, il s'élança sur le héros Chébriones, comme un lion impétueux qui va dévaster une étable et recevoir une blessure en pleine poitrine, car il se perd par sa propre ardeur. Ainsi, Patroclos, tu te ruas sur Chébriones, et le Priamide sauta de son char, et tous deux luttèrent pour le cadavre, comme deux lions pleins de faim combattent sur les montagnes pour une biche égorgée. Ainsi, sur le cadavre de Chébriones, les deux habiles guerriers, Patroclos Ménoïtiade et l'illustre Hector, désiraient se percer l'un l'autre de l'airain cruel. Et le Priamide tenait le cadavre par la tête et ne lâchait point prise, tandis que Patroclos le tenait par les pieds. Et les Troyens et les Danaïens engagèrent alors un rude combat. De même que le Ross et le Notos, par leur rencontre furieuse, bouleversent dans les gorges des montagnes une haute forêt de hêtres, de frênes et de cornouillers à écorce épaisse, qui heurtent leurs vastes rameaux et se rompent avec bruit. Ainsi les Troyens et les Achéens, se ruant les uns sur les autres, combattaient et ne fuyaient point honteusement. Et les lances aiguës et les flèches ailées qui jaillissaient des nerfs s'enfonçaient autour de Cébriones, et de lourds rochers brisaient les boucliers. Et là, Cébriones gisait, grand, oublié des chevaux et du char, et dans un tourbillon de poussière. Aussi longtemps que Hélios tint le milieu de l'Ouranos, les traits jaillirent des deux côtés, et les deux peuples périssaient également. Mais lorsqu'il déclina, les Achéens furent les plus forts, et ils entraînèrent le héros Cébriones loin des traits et du tumulte des Troyens, et ils lui arrachèrent ses armes des épaules. Et Patroclos, méditant la perte des Troyens, se rua en avant. Il se rua trois fois, tel que le rapide Arès, poussant des cris horribles, et il tua 9 guerriers. Mais quand il s'élança une quatrième fois, semblable à un dieu, alors, Patroclos, la fin de ta vie approcha. Phoïbos, à travers la mêlée, vint à lui, terrible, et le Ménoïtiade ne vit point le dieu qui s'était enveloppé d'une épaisse nuée. Et Phoïbos se tient derrière lui, et le frappa de la main dans le dos, entre les larges épaules, et ses yeux furent troublés par le vertige. Et Phoïbos Apollon lui arracha de la tête son casque, qui roula sous les pieds des chevaux en retentissant, et dont les grêtes furent souillées de sang et de poussière. Et il n'était point arrivé à ce casque d'être souillé de poussière quand il protégeait le beau front du divin Achilleus. Mais Zeus voulait donner ce casque au Priamide Hector, afin qu'il le portât, car sa mort était proche. Et la longue et lourde lance de Patroclos se brisa dans sa main, et le roi Apollon, fils de Zeus, détacha sa cuirasse. Son esprit fut saisi de stupeur, et ses membres furent inertes, et il s'arrêta stupéfait. Alors le Dardanien Pantoïde Phorbos, excellent cavalier, et habile entre les meilleurs à lancer la pique, et qui avait déjà précipité 20 guerriers de leur char, s'approcha du Ménoïtiade par derrière, et le blessa d'un coup de lance aigu. Et ce fut le premier qui te blessa, dompteur de chevaux Patroclos. Mais il ne t'abattit point, et retirant sa lance, il recula aussitôt dans la foule, redoutant Patroclos des armées. Et celui-ci, frappé par un dieu et par la lance d'un homme, recula aussi dans la foule de ses compagnons pour éviter la mort. Et dès que Hector eut vu le magnanime Patroclos se retirer, blessé par les reins aigus, il se jeta sur lui et le frappa dans le côté d'un coup de lance qui le traversa. Et le Ménoïtiade tomba avec bruit. Et la douleur saisit le peuple des Achéens. De même, un lion dompte dans le combat un robuste sanglier, car il combattait ardemment sur le faîte des montagnes, pour un peu d'eau qu'ils voulaient boire tous deux. Mais le lion dompte avec violence le sanglier haletant. Ainsi, le Priamide Hector arracha l'âme du brave fils de Ménoïtios, et plein d'orgueil, il l'insulta par ses paroles ailées. Patroclos, tu espérais sans doute renverser notre ville et emmener captives sur tes nefs nos femmes dans ta chère terre natale. Ô insensé, c'est pour les protéger que les rapides chevaux d'Hector l'ont mené au combat, car je l'emporte par ma lance sur tous les Troyens belliqueux et j'éloigne leur dernier jour. Mais toi, les oiseaux carnassiers te mangeront. Ah, malheureux, le brave Achilleus ne t'a point sauvé. Lui qui t'envoyant combattre, tandis qu'il restait, te disait sans doute « Ne reviens point, dompteur de chevaux Patroclos, dans les nefs creuses, avant d'avoir arraché de sa poitrine la cuirasse sanglante du tueur d'homme Hector. » Il t'a parlé ainsi sans doute, et il t'a persuadé dans ta démence. Et le cavalier Patroclos, respirant à peine, lui répondit « Hector, maintenant tu te glorifies, car le Cronide et Apollon t'ont donné la victoire. Ils m'ont aisément dompté, en m'enlevant mes armes des épaules. Mais si 20 guerriers tels que toi m'avaient attaqué, ils seraient tous morts par ma lance. C'est la moire violente et le fils de Leto, et parmi les hommes Phorbos qui me tue. Mais toi, tu n'es venu que le dernier. Je te le dis, garde mes paroles dans ton esprit. Tu ne vivras point longtemps, et ta mort est proche. La moire violente va te dompter par les mains de l'irréprochable Ayaki d'Achilleus. » Il parla ainsi et mourut, et son âme abandonna son corps et descendit chez Hédès, en pleurant sa destinée, sa force et sa jeunesse. Et l'illustre Hector répondit au cadavre du Ménoïtiade: « Patroclos, pourquoi m'annoncer la mort? Qui sait si Achilleus, le fils de Tétis aux beaux cheveux, ne rendra point l'esprit sous ma lance ?» Ayant ainsi parlé, il lui mit le pied sur le corps, et le repoussant, arracha de la plaie sa lance d'airain. Et aussitôt, il courut sur Automédon, le divin compagnon du rapide Ayakide, voulant l'abattre. Mais le chevaux immortel, présent splendide que les dieux avaient fait à Péléus, enlevèrent Automédon.